Ok. Combien suivent l'église sur les réseaux, leurs réseaux sociaux? Nice. Si vous le faites pas encore, je vous invite vraiment à le faire. C'est tellement de belles choses qui sont publiées. Et donc, l'équipe des coms a publié une story dernièrement et un montage vidéo dernièrement. Et en fait, elles sont parties faire des mini interviews de différents bénévoles. Puis elles leur ont demandé, pourquoi est-ce que tu sers? Pourquoi est-ce que tu sers? Pourquoi est-ce que t'es bénévole? À quoi ça sert? Et les réponses ont vraiment été intéressantes, vraiment passionnantes. Et la vidéo est tellement courte, tellement bien faite que je vais vous la montrer ce matin. Elle est magnifique, puis on va prendre quelques secondes pour la regarder. Elle va se lancer.
Un, deux.
Donnez au suivant.
Contribuer.
Plaisir.
Pour Dieu et pour les autres.
J'aime les enfants.
Privilège.
J'aime Jésus.
Est-ce qu'on peut remercier l'équipe des coms pour le bon travail qu'elles font? Merci les filles. Pourquoi servir? Moi, personnellement, j'ai aimé toutes les réponses qu'on a attendues. Mais il y en a une particulièrement qui m'a frappé. Il y en a une qui m'a interpellé et c'est la dernière réponse. Pourquoi servir? Parce que j'aime Jésus. Parce que j'aime Jésus. Et on peut pas dissocier l'amour du don, l'amour du service. Même regardez le verset le plus connu de la Bible, Jean 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a tellement aimé qu'il a donné. Il y a un lien toujours entre l'amour et le service et le don. J'ai entendu parler d'une histoire d'un homme qu'on va appeler Monsieur Gagnon. Puis Monsieur Gagnon, il filait pas très bien dans son corps. Ok? Il faisait chaud, il se sentait pas bien, il filait pas trop. Donc il est allé prendre un rendez-vous avec son médecin de famille. Puis après un an d'attente, il a enfin vu son médecin de famille. Et son médecin de famille lui fait passer une batterie de tests, une batterie d'examens. Puis le médecin a étudié tout ça, tout le dossier. Et il est arrivé à une conclusion d'un diagnostic très grave. Et pour l'annoncer, il s'est dit, je vais d'abord l'annoncer à la femme. Je vais d'abord annoncer à madame. Donc il accueille madame dans son bureau, puis il dit « Madame Gagnon, écoutez, on est désolé de vous l'apprendre, mais votre mari est atteint d'une maladie très rare et très grave. Puis s'il n'est pas traité à temps, il risque de mourir. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un traitement pour ça. La mauvaise nouvelle, c'est qu'avec ce traitement-là, il va avoir besoin d'un régime alimentaire très strict. Vous allez devoir lui faire à manger tous les jours, 3 repas par jour, façon très, très stricte. Puis en plus de ça, il va devoir avoir besoin d'un environnement très propre. Vous allez devoir être disponible pour lui presque H24. Ça va vous demander plus que vous ne l'imaginez. Mais si vous cuisinez pour lui, si vous faites le ménage pour lui, si vous êtes là pour le servir et que vous faites ce qu'il faut pendant une longue période, votre mari vivra. Puis Madame Gagnon sort du bureau. Elle voit son mari en train de tourner en rond, comme ça, un peu en stress. Puis ce mari la voit et « Alors, c'est quoi la nouvelle ?» Puis Madame Gagnon lui dit « Il n'y a plus rien à faire. C'est fini pour toi. On va rentrer à la maison parce qu'en plus, tu as du ménage à faire. Il n'y a plus rien à faire pour toi. J'ai pas le temps pour ça. Je t'aime pas assez pour te servir. » Combien ce matin sont d'accord pour dire « J'aimerais pas être marié avec Madame Gagnon ?» Et même si cette histoire est une fausse histoire, on va être honnête aujourd'hui, parfois on ne sert pas parce qu'on n'aime pas assez. On ne sert pas notre famille parce qu'on s'aime trop. On ne sert pas notre église parce qu'on n'aime pas assez l'église. Et je trouve ça intéressant ce que Jean-Paul II a dit un jour. Il a dit que l'amour ne se prouve pas, il se manifeste par le service. Et on va voir ensemble ce matin que le service, c'est la plus haute expression de l'amour. Et ça va être mon titre aujourd'hui, la plus haute expression de l'amour. Et on va commencer aujourd'hui par avoir un texte qu'on va lire dans l'évangile de Marc. Et dans notre contexte de notre passage, c'est très simple. Il y a différentes personnes qui vont voir Jésus et qui vont lui poser plein de questions. Un peu comme vos enfants. Pourquoi papa? Pourquoi on fait ci? Pourquoi on fait ça? Comme vos enfants, ils posent plein de questions pour le déstabiliser, pour le piéger, pour essayer de le faire taire, mais Jésus a toujours le dernier mot. Puis à un moment donné, il y a un homme qui s'approche et qui lui demande « Hey Jésus, quel est le plus grand et le plus important de tous les commandements ?» Puis Jésus lui répondit « Voici le commandement le plus important. Écoute, Châteauguay. Non, pardon. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Aimer Dieu, c'est le plus grand commandement. Aimer Dieu, ça doit être la chose la plus importante dans notre vie. Puis comment aimer Dieu ? De tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre intelligence et de toute notre force. De toute ta force. De toute ta force. Et Jésus ici nous lance un premier appel pour nous aujourd'hui. Aimer Dieu, c'est servir Dieu. Pourquoi servir ? Parce qu'on aime Dieu. Parce qu'on aime Jésus. Aimer Dieu, c'est vouloir être actif pour lui. Aimer Dieu, c'est vouloir tout lui donner. Aimer Dieu, c'est vouloir se donner parce qu'un jour Jésus nous a tout donné. C'est vouloir se donner parce qu'un jour Jésus nous a tout donné. L'évangile, c'est pas un livre poussiéreux. L'évangile, c'est l'histoire vraie de Jésus qui est venu sur terre mourir à la croix pour nos péchés. C'est l'évangile, c'est l'histoire vraie de Jésus, de ce Dieu qui s'est incarné, qui a pris l'apparence humaine pour venir porter le poids de nos péchés, d'une condamnation qu'on méritait mille fois et qu'on mérite encore aujourd'hui. Et je sais que c'est pas très à la mode de dire « tu mérites qu'une seule chose, c'est la mort ». Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'aiment pas ce matin parce que je dis ça. Parce qu'on dit toujours en ce moment « oh, hey, tu mérites le bonheur ». Oh, tu mérites cette augmentation, tu travailles tellement fort. Tu mérites d'avoir ça dans ta vie. Tu le mérites, tu le mérites. La seule chose que tu mérites selon la Bible, c'est la mort. C'est la condamnation. C'est l'enfer. C'est terrible, mais c'est la réalité à cause de nos péchés. À cause de nos fautes, il n'y a personne qui est parfait. Et notre imperfection nous amène à la condamnation. Mais Jésus est venu pour payer notre dette. Jésus est venu mourir à la croix alors qu'il n'était pas obligé de le faire par amour pour toi, par amour pour moi. Il est venu prendre nos péchés pour nous offrir le pardon, la transformation, la nouvelle vie, une grâce qu'on ne mérite pas. Jésus nous a prouvé son amour en nous servant. Marc 10, 45 nous dit « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Jésus nous a sauvés en nous servant. Et si Jésus est ton sauveur ce matin, si Jésus est le Seigneur de ta vie ce matin, juste ce verset-là, ça doit te remplir d'une profonde gratitude, d'une profonde joie inébranlable. Je suis sauvé par grâce, grâce à Jésus. Songe dans l'état dans lequel tu te trouvais avant de faire la connaissance de Jésus. Songe dans l'état dans lequel tu étais avant que Jésus vienne changer ta vie. Puis la reconnaissance, la joie d'être sauvé, d'être aimé par Dieu, doit t'amener à vouloir l'aimer et à vouloir le servir davantage. Moi, pendant des années, il y en a plusieurs qui le savent parce que j'ai déjà raconté, pendant des années, je me suis éloigné de Dieu. Je détestais Dieu, je détestais Jésus, je détestais l'évangile, je détestais l'église, je détestais les chrétiens, j'étais loin de tout ça. Puis j'étais rendu à un point dans ma vie où personne d'entre vous n'aurait tendu la main pour me sauver. Personne, même pas moi. J'étais rendu à un point dans ma vie où je méritais même pas le pardon. Je fais des choses dont je suis même pas fier aujourd'hui. Il y avait que Jésus pour me sortir de là. Et il l'a fait. Il m'a sauvé. Il m'a transformé. Il m'a changé. Il n'a pas regardé à la boue, à la puanteur que j'avais sur moi, aux péchés, aux erreurs que j'avais. Il m'a donné une nouvelle vie. Puis, à la suite de ça, je suis revenu à l'église. Et après plusieurs semaines d'être revenu à l'église, j'ai été frappé par une réalité. J'ai eu une réflexion qui m'a vraiment bouleversé. Et cette réflexion est partie d'un... peut-être de l'orgueil et puis du jugement, là. Mais le fond de la pensée, elle est bonne, ok ? Ne me jugez pas trop vite, hein, ce matin. À force de venir à l'église, je voyais toujours les mêmes personnes assises toujours au même endroit les dimanches matins. et je voyais toujours les mêmes personnes debout en train de servir. Puis voilà la partie un peu de jugement que j'étais. Hein. J'étais encore jeune. Je me disais, Seigneur, je ne veux pas être comme eux, là, être toujours assis. Ça, c'est la mauvaise partie. La bonne partie, c'est, tu m'as sauvé. Je sais d'où je viens. C'est hors de question que je reste assis le dimanche matin tout le temps. C'est hors de question que je passe mes dimanches matins et rester assis. Je veux te prouver mon amour en te servant. Je veux te servir. Tu ne m'as pas sauvé pour que je réchauffe un siège. Tu m'as sauvé pour que je puisse te servir. Tu m'as sauvé pour que je puisse t'aimer en action. Et c'est ce que je veux faire. Je veux t'aimer en action. Puis j'ai commencé à servir partout où je pouvais. Je faisais la distribution de la Sainte Cène. J'étais dans l'équipe d'animation pour les jeunes adultes. J'animais un groupe toutes les semaines. Je conduisais des navettes qui amenaient des gens du métro à l'église. Je faisais partie d'une équipe d'intercession pour les jeunes adultes. Je faisais partie de l'équipe qui amenait des repas aux itinérants la semaine. Je faisais tout ce que je pouvais faire. Et c'est pas pour me glorifier que je disais ça. C'est pas pour me glorifier que je dis tout ça. C'est parce que j'avais besoin de manifester mon amour pour Jésus. Je vivais selon ce principe d'Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Tout ce que je pouvais faire, je voulais le faire pour Dieu. Je voulais le faire parce qu'il m'a sauvé. Je voulais le faire parce qu'il m'a donné une nouvelle vie alors que je ne le méritais pas. Je voulais le faire pour prouver mon amour et ma passion pour Jésus. C'est l'apôtre Paul qui dit « Ayez du zèle ». Et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Nous ne sommes pas appelés à consommer l'Église. Nous sommes l'Église. Tu n'es pas appelé à consommer l'Église, tu es appelé à servir l'Église. Tu es appelé à servir par grâce. La Bible ne dit jamais « Bien fait, bon et fidèle consommateur ». T'as bien réchauffé ta place. Tu t'es bien reposé le dimanche matin. C'est bien. Entre maintenant dans le repos de ton maître. Non ! La Bible nous dit « Bien fait, bon et fidèle serviteur. T'as été fidèle en peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Viens maintenant partager la joie de ton maître. » La Bible ne nous appelle pas consommateurs. La Bible nous appelle serviteurs. Pourquoi servir ? Parce que nous sommes appelés à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre intelligence et de toute notre force. Et en servant Dieu, nous montrons notre amour pour Dieu. Et si j'aime Dieu, si je sers Dieu, je ne vais pas servir uniquement que Dieu. C'est pasteur Greg Rochel qui a dit un jour, il est impossible d'aimer Jésus sans servir les gens. Nous sommes appelés aussi à aimer les autres en les servant. On va reprendre la réponse de Jésus que nous avons lue tout à l'heure. Il dit, voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Puis là, on pourrait se dire, ok, c'est intense, mais ok. J'accepte. Mais Jésus n'a pas fini ici. Jésus continue. Il dit, et le second commandement, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. Dans la vidéo de tout à l'heure, on a entendu une bénévole qui disait qu'elle servait pour Dieu, mais aussi pour les autres. Pourquoi nous servons ? Parce que nous sommes appelés à aimer Dieu et à aimer les autres en action. Et le meilleur exemple de savoir comment aimer les autres se trouve en Jésus. Jésus est le modèle parfait. Jésus est l'exemple parfait. Et c'est intéressant de voir comment Jésus a aimé ses disciples. Comment il les a aimés. Il les a aimés en les servant. Et il y a une histoire dans la Bible bouleversante qu'on ne va pas lire ce matin, mais que je vais faire un petit résumé aujourd'hui. Une histoire dans la Bible qui est bouleversante. À un moment donné dans la vie de Jésus, Jésus sait qu'il va mourir. Jésus sait qu'il s'apprête à mourir dans quelques heures. Il sait que la croix l'attend. Il sait que le châtiment l'attend. Il sait que les coups, l'injustice, les crachats, l'humiliation, tout ça l'attendent. Il le sait ça. Et ce qui est intéressant de voir, c'est ce que Jésus n'a pas fait, alors qu'il sait que c'est la fin de sa vie. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, si je sais que demain, je vais mourir dans d'atroces souffrances et humilié, aujourd'hui, je vais me faire plaisir. Ok ? Je vais prendre un petit moment au spa, petit massage, j'ouvre une belle bouteille de vin, foie gras, saucisson, parce que je suis un bon français. Je vais en profiter aujourd'hui, ok ? Mais regardez ce que Jésus lui fait. Alors qu'il sait qu'il va mourir, Jésus ne va pas au spa. Jésus lave les pieds de ses disciples. Jésus lave les pieds de ses disciples. Et à l'époque, bon, déjà aujourd'hui, on va dire que laver les pieds de quelqu'un, ce n'est pas quelque chose qui est très à la mode, qui est très apprécié, qui est très glorieux. Mais à l'époque, laver les pieds des gens, c'était la tâche la plus humiliante qu'un serviteur pouvait faire. C'était réservé uniquement aux plus bas serviteurs de l'échelle sociale des serviteurs. Et Jésus, le Fils de Dieu, le Dieu qui s'est fait chair, le Créateur de l'univers, le Logos, celui par qui tout s'est fait, celui qui a changé l'eau en vin, celui qui a donné la vie à des personnes qui étaient mortes devant lui, celui qui a donné la vue à des aveugles, celui qui a multiplié les pains et les poissons, ce même Jésus-là lave les pieds de ses disciples. Et puis, ce n'était pas des chaussures comme on avait aujourd'hui, hein, c'était des chaussures ouvertes. Il lave les pieds poussiéreux, sales, abîmés, peut-être avec des ongles incarnés, peut-être avec des champignons, mais il les lave par amour pour eux. Jésus lave les pieds de ses disciples. Puis, il aurait très bien pu dire, « J'ai pas le temps de les servir, je vais bientôt mourir. » J'ai pas le temps pour ça. Ma semaine a été trop chargée. Puis c'est vrai, quand on regarde la semaine avant la crucifixion de Jésus, sa semaine a été extrêmement chargée. Il aurait pu dire, j'ai pas le temps. Hey, c'était fatigant là, faut que je me repose, demain je vais mourir. Ça a été fatigant ma semaine, je vais prendre du temps pour moi. Jésus ne se dit pas ça. Jésus rejette toutes ses excuses. Et il décide de montrer son amour pour ses disciples en les servant, en s'agenouillant devant eux, et en prenant soin d'eux. Jésus est renversant ici. Je trouve cette histoire bouleversante et renversante. Mais le plus choquant de tout ça, c'est pas ce que Jésus a fait. C'est qu'il nous appelle à faire la même chose. Le plus dérangeant de tout ça, c'est que Jésus nous appelle à faire la même chose. Jésus nous dit en Jean 15, « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner. » Encore une fois, amour, don, amour, service. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Jésus nous appelle à l'imiter. Il nous appelle à servir les autres en les aimant, en prenant soin d'eux et en cherchant à ce qu'ils soient bien. Puis parfois, on a peur de servir. Parce qu'on se dit, mais j'ai pas le temps. J'ai peur que ce soit trop pour ma semaine. J'ai peur d'être trop occupé. J'ai peur d'être trop surchargé. Et c'est correct de ressentir ça. Mais le problème, c'est que si tout le monde pense de cette façon, les personnes qui vont être surchargées, ce sont ceux qui sont déjà en place et qui ne sont pas remplacés. Ok, il y en a une qui est déjà surchargée apparemment. Le problème de tout ça, c'est que si on ne vient pas à remplacer les personnes qui sont déjà en place, on va être surchargé. J'ai parlé de la reprise des sports dernièrement. Puis moi, je suis un fan de soccer aussi. Je suis un fan de football américain, mais je suis un fan de soccer, le vrai football à mes yeux. Et je supporte une équipe, le LOSC, Lille Olympic Sporting Club. C'est l'équipe de ma ville, Lille. Et c'est une bonne équipe, honnêtement, sans vouloir. C'est une bonne équipe, c'est vraiment une bonne équipe. Et cet été, c'était le mercato. Pour toutes les équipes de soccer, c'est le mercato. Et le mercato, c'est en fait la période de transfert où on achète des joueurs et où on vend les joueurs. C'est une période où on est censé se renforcer et pallier les départs de notre équipe, de notre effectif. Et cet été, le mercato du LOSC a été pourri. Ok ? Ça a été pourri. Puis au LOSC, on a quand même un attaquant de classe mondiale. C'est un Canadien. Wouh ! On a un attaquant de classe mondiale qui est le meilleur buteur de l'histoire du LOSC. Un Canadien. Il s'appelle Jonathan David. Et notre mercato a tellement été pourri qu'on n'a réussi à recruter aucun autre attaquant. On a 24 joueurs dans notre effectif, mais on n'a qu'un seul attaquant. Jonathan David va devoir jouer tous les matchs, sans remplaçant. Puis il y en a qui vont se dire, bon, il y a un prix où ils sont payés, ils pourraient les faire tranquilles, ces matchs. Il y a une autre réalité. C'est qu'un joueur ne peut pas être performant. Il ne peut pas tout donner à chaque match, à chaque semaine, s'il n'est jamais remplacé. Il va se blesser. Il va être fatigué. Il ne sera pas à la hauteur des exigences parce qu'il n'est pas remplacé. Et c'est exactement pareil pour l'Église, si personne ne s'implique pour prendre la relève de ceux qui servent déjà aujourd'hui. Aimer les autres, c'est dire « je refuse que mon frère, que ma sœur se fatigue à chaque dimanche pour me servir. Je veux les aider. Je veux les aimer en les remplaçant, en les servant. » Aimer les autres, c'est dire « hey, merci pour ton service. J'ai été béni, mais maintenant je vais prendre ta place. Maintenant, c'est à moi de laver les pieds. » Je vous rassure, il n'y a pas un service comme ça qui lave les pieds, mais c'est une image. Hein. C'est à moi de laver les pieds. C'est à moi de servir. C'est à moi de me donner maintenant. Tu peux aller t'asseoir, profiter de ton dimanche. Maintenant, c'est moi qui prends ta place. Aimer les autres, c'est servir les autres. C'est prendre soin des autres. Puis tu sais quoi? Si tu embarques avec nous, tu vas réaliser qu'en servant, tu aimes Dieu, tu aimes les autres, mais tu vas aussi comprendre et voir à quel point le service va impacter ta vie. Parce que quand tu sers les autres, tu vas voir des vies transformées autour de toi, mais la première vie que tu vas voir transformée, généralement, c'est la tienne. Parce que tu sers. Puis le plus fou de tout ça, c'est de se dire, parfois quand on vit des difficultés, quand on vit des épreuves dans nos semaines, dans notre famille, dans notre entourage, dans notre travail, parfois on se dit, je vais prendre du recul, je vais arrêter de servir, je vais penser à moi, je vais penser à moi parce que là, j'ai tellement de pression que je vais penser à moi, donc c'est trop, j'arrête tout, je pense qu'à moi. Le plus fou, c'est de se dire qu'en servant, ça ira beaucoup mieux qu'en t'isolant. Ça peut paraître fou, mais suivez-moi bien. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la branche d'armée des États-Unis qu'on appelle les Navy SEALs? Les Navy SEALs. Les SEALs sont sûrement l'une des branches d'armée les plus puissantes au monde. Ils sont impressionnants, les gars. Ils sont vraiment impressionnants. J'ai lu même la biographie d'un Navy SEAL. C'est impressionnant, ce gars. Mais pour arriver à être un Navy SEAL, il faut passer par un entraînement extrêmement difficile. Extrêmement difficile physiquement, émotionnellement, moralement. Tellement difficile que 90% des gens échouent. 90% des hommes qui s'inscrivent pour être un Navy SEAL un jour, parce que c'est leur rêve, échouent. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a constaté que ceux qui réussissaient, ce n'est pas les plus forts. Ce n'est pas les plus déterminés. Ce n'est pas les plus fous, les plus tatoués, les plus bizarres, les plus en santé. Ceux qui réussissaient les tests, les rares 10%, l'élite de l'armée américaine, l'élite de ces 10%-là, ce sont ceux qui prennent soin des autres. Ce sont ceux qui servent les autres, qui veillent sur les autres. C'est pour ça que quand ces hommes parlent de leurs collègues, ils s'appellent « brothers ». C'est mon frère d'armes. Je sais que je peux me reposer sur lui parce qu'il est fiable. Et il sait qu'il peut se reposer sur moi. Puis ensemble, hey, on est imbattables. Dans l'épreuve, ce qui leur donne de la force, c'est se servir mutuellement. C'est s'encourager mutuellement. Et ça en fait une gang de gars surentraînés, soudés et imbattables. Est-ce que vous réalisez à quel point l'Église serait dangereuse dans la guerre spirituelle si tout le monde venait à servir les uns les autres? À quel point l'Église serait dangereuse dans la guerre spirituelle si tout le monde quittait sa chaise pour servir par amour pour Dieu, par amour pour les autres, mais aussi par amour pour l'Église. Parce qu'aimer l'Église, c'est servir l'Église. Aimer l'Église, c'est servir l'Église. En suivant encore l'exemple de Jésus, la Bible nous dit que Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Nous sommes appelés à aimer l'Église comme Jésus, en la servant. Et je pense que vous avez déjà tous entendu cette fameuse phrase « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. » Ensemble, on va plus loin. Est-ce que vous imaginez l'impact que pourrait avoir l'Église dans notre ville si tout le monde venait à s'impliquer par amour pour Dieu, par amour pour les autres et par amour pour l'Église? Ça serait phénoménal. À quel point on pourrait aller plus loin que là où on est présentement? À quel point on pourrait voir de plus grandes choses si tout le monde venait s'impliquer avec cet amour-là? Si tout le monde prenait sa place par amour? Aimer l'Église, c'est servir l'Église. Et il faut comprendre que servir l'Église, c'est bâtir l'Église d'aujourd'hui, mais aussi bâtir l'Église de demain. Il faut agrandir notre vision qu'on sert. Il faut agrandir notre vision. Prenons la parabole des maçons. Elle n'est pas dans la Bible. Il y en a qui sont déjà en train de se demander, parabole des maçons, est-ce que c'est dans Matthieu, Marc ? Parabole des maçons, pas dans la Bible. Un jour, trois maçons travaillaient dans un chantier. Puis un homme vint les voir. Puis il leur dit, « Hey guys, qu'est-ce que vous faites ?» Puis il y en a qui dit, « Bah moi, je pose juste une brique comme ça sur un tas. » Il y en a un autre qui dit, « Moi, je pose une brique parce que je suis en train de construire un bâtiment. » Puis le troisième lui répond, « Moi, je pose une brique pour bâtir une cathédrale pour Dieu. » Les trois faisaient le même job. Il y en a qui avaient un travail, les deux qui disaient « Moi, je pose une brique pour un bâtiment. » Eux, c'était un travail. Mais la personne qui pose sa brique pour une cathédrale pour Dieu, lui, il avait sa mission. Il avait sa vocation. Il voyait plus loin. Il voyait plus grand. Il avait son « Pourquoi je le fais ? Pourquoi je me donne ? Pourquoi je travaille ?» Il avait une vision que ce que je suis en train de faire, ça me dépasse. C'est bien plus grand. Mais je pose ma fondation. Je pose ma pierre. Aimer l'Église et servir à l'Église, c'est être animé de cette vocation, de réaliser qu'on participe tous à notre niveau à quelque chose qui nous dépasse, à une construction qui nous dépasse. C'est être animé d'une vision plus grande que ce que je vois sous les yeux. C'est bien plus que un bénévole à l'accueil. Il y en a qui sont, moi je suis un bénévole à l'accueil. Moi je suis juste un bénévole à l'accueil. J'ouvre juste les portes et je dis bonjour. C'est plus que ça. C'est bien plus que ça. En servant à l'accueil, tu bâtis l'Église d'aujourd'hui. En prenant soin des gens qui viennent pour la première fois. Mais aussi, tu bâtis le royaume de Dieu parce que tu accueilles comme personne d'autre une personne qui ne connaît peut-être pas Jésus, mais qui s'apprête à le rencontrer. Tu es la vitrine de l'Église. Tu es la porte de l'Église, la première porte, le premier visage, le premier sourire. J'entends tellement de témoignages sur tous les sites, de personnes qui se font baptiser en disant « Je suis venu un dimanche matin et j'ai tellement été bien accueilli. Les gens ont tellement été souriants à l'accueil, stationnement, sécurité, espace. J'ai tellement été bien accueilli, je suis revenu la semaine d'après. Puis je suis encore revenu la semaine d'après et encore revenu. Puis à un moment donné, j'ai donné ma vie à Jésus. » Ils ne sont pas revenus parce que le message était bon ou le prédicateur était cool ou la louange était géniale. Ils sont revenus parce que les gens servaient avec amour et avec un sourire unique. Parce que les gens aujourd'hui, là, on est dans une société malheureuse. On est dans une société où on est tous isolés les uns des autres. On est dans une société où on se sourit même plus. Et venir à l'église, on s'attend tous à avoir des faces d'enterrement. Et c'est sûr, quand tu te fais accueillir par un sourire, que tu n'as même pas vu des dents pendant toute ta semaine dans ton service, dans ton travail, ça choque. Je ne sais plus si je l'avais dit aux bénévoles avant de passer aux deux réunions ou si je l'avais dit au déjeuner qu'on avait organisé pour eux à la fin de l'année. Mais je leur ai dit, j'ai dit à l'équipe d'accueil, l'équipe de placeurs, l'équipe d'espace bienvenue, l'équipe de sécurité, si on est passé à deux réunions à Nouvelle-Vie-Châteauguay, ce n'est pas à cause de moi, c'est de leur faute. C'est à cause de leur sourire. C'est à cause de leur implication. C'est parce qu'ils aiment en action et les gens ressentent cet amour. Ce sont plus que des bénévoles. Ils bâtissent le royaume de Dieu. Là, peut-être toi, tu dis, moi, je suis juste animateur de groupe. C'est tout ce que je fais. T'es plus qu'un animateur de groupe. Tu prends soin de l'église d'aujourd'hui. Mais tu prends soin aussi de l'église de demain. Parce qu'à un moment donné, les gens dont tu prends soin aujourd'hui vont être les leaders de demain qui prendront soin d'autres personnes demain. Vois plus loin. Élargis ta vision. Il y en a peut-être, tu dis, moi, je suis juste un bénévole à NV Junior. Moi, je prends des médicaments parce qu'il y a tellement de cris en bas. T'es plus qu'un bénévole à NV Junior. Parce que tu bâtis l'église d'aujourd'hui, tu prends soin des enfants aujourd'hui, mais tu prends soin de l'église de demain. Est-ce que vous réalisez qu'à NV Junior, on prend soin des futurs pasteurs? On est en train de former des futurs pasteurs. On est en train de former des futurs leaders de l'église. On est en train de former des futurs missionnaires. On est en train de former des futurs leaders de worship. On est en train de former des futurs témoins de l'évangile dans leur université, dans leur école. On est en train de former la future église. Vous n'avez pas l'air de comprendre. François, ramène-moi la sono, s'il te plaît. Je vais la prendre avec l'exemple de la sono. Je plaisante, la sors pas. On va prendre un micro. Chanter un dimanche matin, ça peut paraître cool. Mais c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. Peut-être que tu as un don pour le chant. Et je parle d'un vrai don pour le chant. Hein. Si tu as l'habitude de chanter sous la douche et que même la douche s'arrête de couler pour arrêter son supplice, c'est que ça veut dire quelque chose. Moi, je suis reconnaissant pour les gens qui font la louange parce que ça impliquerait que ce serait à moi de le faire. Donc, soyez reconnaissant pour la louange. Mais peut-être que tu as un don pour la louange. Tu prends des cours pour la louange. Tu prends des sessions. T'es formé pour chanter. La louange, c'est plus que venir un dimanche matin sous les spots. La louange, c'est amener les gens à louer Dieu, mais encore plus à voir plus loin. Ça amène aussi les gens à ne plus se centrer sur leurs problèmes, mais à se centrer vers celui qui résout les problèmes. Faut voir plus loin. C'est poser une brique pour le royaume de Dieu. À chaque dimanche matin, chaque bénévole pose une brique. Ça pose une brique. Juste une brique. Ça paraît pas énorme, ça paraît pas extraordinaire ce que je fais, mais chaque pierre est essentielle. Parce que chaque pierre posée les unes sur les autres, ça forme une cathédrale, ça forme un royaume pour Dieu. Je m'attendais à un amen, mais c'est pas grave, vous n'êtes pas encore convaincus. Il n'y a aucun petit service. Chaque service à l'église, c'est une pierre. C'est une pierre de posée pour le royaume de Dieu. Chaque service, c'est une pierre posée pour le royaume de Dieu d'aujourd'hui, mais aussi pour demain. Souvent, on croit que ce sont les personnes sur le stage qui sont les plus importantes. Parce qu'on est dans une société où tout ce qui est mis en lumière est important. Tous ceux qui sont à la lumière, ce sont eux les plus importants, les plus influents. Puis tu dis, moi, je ne suis pas appelé à être à la lumière, je ne suis pas appelé à chanter, je ne suis pas appelé à jouer du piano, je ne suis pas appelé à prêcher. Donc, je ne suis pas important, ça n'a rien que je serve. Je ne suis pas essentiel. On peut se passer de moi. On peut se passer de mes dons. On peut se passer de mon offrande. On peut se passer de ce que j'ai à offrir. Tout le monde a de l'importance. Tout le monde a de l'importance. La Bible nous dit que Dieu met chaque personne à la bonne place, comme chaque membre du corps est à la bonne place. Il n'y a aucun membre de notre corps humain qui est inutile. Même ton petit doigt de pied, quand tu te le cognes dans un coin de la table, il est utile pour toi. Chaque membre est utile. Tu peux faire la différence. Il faut que tu réalises ce matin que tu es appelé à aimer Dieu, à aimer les autres, à aimer l'Église en action. Parce que la plus belle preuve d'amour, c'est pas juste dire « je t'aime », c'est servir. Puis ce matin, c'est pas juste un message pour avoir des bénévoles là, que je fais. Hein. Ce matin, c'est premièrement un message de rappel pour ceux qui servent, d'avoir le cœur au bon endroit, d'avoir le cœur à la bonne place. 1 Corinthiens 13, pour ceux qui le connaissent bien, c'est un chapitre qui nous parle que de l'amour. Et ce chapitre-là nous dit, j'ai beau être le plus intelligent, j'ai beau être le plus fort, j'ai beau même être le plus beau, le plus serviable, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, j'ai beau faire tous les services à l'église, aux yeux de Dieu, c'est inutile, c'est comme du vent. C'est comme quelqu'un qui fait juste du bruit. c'est inutile. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ce message, ce n'est pas juste un message pour avoir des bénévoles. C'est un message pour que Jésus reçoive ton amour en action. C'est un message pour que Jésus reçoive ton service, ta reconnaissance. Parce que toute la gloire lui revient. Toute la gloire lui revient. Tout ce qu'on a de mieux en nous lui revient. Tout est à propos de lui. On l'a chanté ce matin, tout est centré sur Jésus. Tout est à propos de Jésus. Tout est pour lui. Tout est à lui. Jésus mérite notre service. Jésus mérite notre amour. Jésus mérite que nous fassions tout notre possible pour l'honorer. L'apôtre Paul dit en Philippiens 2, verset 4, que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force légale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il a pris la condition de serviteur. On n'aime pas ce mot-là quand même, se faire appeler serviteur. C'est ce que Jésus a pris comme condition. Je suis devenu serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes et il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus s'est fait serviteur pour nous. J'aime tellement ce que pasteur Tim Dillina, pasteur de Times Square Church à New York, a dit un jour. Il a dit « Tu as une place au ciel parce que Jésus est devenu un serviteur. » T'as la vie éternelle ce matin, parce que Jésus est devenu serviteur. T'as tout ça, juste parce que Jésus est devenu un serviteur. Jésus mérite ton service, ta louange, ton adoration, tes efforts. Jésus mérite que tu l'aimes en action. Jésus doit recevoir le meilleur de nous, pas juste les miettes ou les restes de nos semaines, si j'ai le temps. Jésus mérite tout ce qu'on a de meilleur en nous. Jésus mérite tout. Et je sais que parfois, on vit des saisons de nos vies où on met le service en retrait parce qu'on vit des périodes difficiles, des difficultés, des maladies, des épreuves. Et c'est correct parfois de se mettre en retrait comme pour... Parfois même processer, même si j'ai dit que parfois ça aide de servir, parfois c'est correct d'être sage aussi. Et ça, je l'accepte, je ne veux pas mettre une culpabilité dessus. Mais à un moment donné, peut-être que ça fait des années que Jésus t'appelle à revenir à son service. Mais tu es encore caché derrière ces excuses-là. Tu as pris le temps qu'il fallait, mais tu te caches encore derrière ces excuses. Jésus t'appelle. Viens, viens à nouveau. Viens, parce qu'il mérite tout. Il mérite ton service. Ce matin, si tu sers, merci du fond du cœur. Je te remercie pour chaque bénévole, chaque semaine, pour leur service, pour leur implication. Je suis touché de voir chaque personne servir, prendre sa place, poser une pierre pour le royaume de Dieu. Merci pour votre service. Ce message est fait pour te rappeler comment doit être la condition de ton cœur quand tu sers. Mais si tu ne sers pas, je t'invite à rejoindre la Dream Team. C'est une Dream Team qu'on a ici. Une véritable Dream Team. J'aime chaque bénévole ce matin. Je les aime tous parce qu'ils sont juste incroyables. Ils servent avec leur force, avec leurs dons, avec leurs talents, tous à la bonne place. Mais ils ont besoin de toi. J'ai besoin de toi pour bâtir l'Église. J'ai besoin de toi pour aller plus loin. J'ai des visions pour l'Église, mais on ne pourra pas y aller si tu ne viens pas. On ne pourra pas y aller si tu ne viens pas. Tu n'as pas idée à quel point, si Dieu t'a placé dans cette église, à cet endroit-là, c'est pour une mission, c'est pour quelque chose qu'il n'y a que toi qui peux l'accomplir. Si Dieu t'a placé ici, c'est pour une mission qui te dépasse. C'est pour une mission qui me dépasse. C'est bien plus grand que moi, c'est bien plus grand que n'importe quel bénévole, c'est bien plus grand que nous réunis pour le royaume, pour Jésus. ne sois plus un consommateur ce matin. Ne sois plus un consommateur. Sois un serviteur. Sois une servante de Jésus. Puis je t'invite à donner à la fin ce formulaire rempli. Réfléchis. Pas trop longtemps, parce que j'ai vu une étude qui dit qu'après 7 secondes, on ne fait plus l'action qu'on avait prévu de faire. C'est triste à dire, hein, on est motivé par faire quelque chose, mais après 7 secondes, si on ne le fait pas, on ne la fera jamais. Je te mets au défi. Remplir ce formulaire, puis de la donner à la personne qui sera à l'extérieur pour récupérer tous les formulaires avec les crayons. Puis même si tu as des questions, si tu te demandes, ça implique quoi ce service-là? Qu'est-ce que ça veut dire ce service-là? On a prévu même un espace café dans le hall qui est prévu pour tout le monde. L'espace café, alléluia pour ça. Parce que quelqu'un a accepté de servir. Mais il va être là aussi, cette personne-là, pour répondre à vos questions. Mais je te mets au défi ce matin d'aimer Dieu, ne plus attendre, de rejeter les fausses excuses, les fausses raisons, d'aimer Dieu, d'aimer les autres et d'aimer l'Église en action. Ne sois plus un consommateur, mais sois un serviteur. Sois un serviteur, comme Jésus. Sois un serviteur. Je vous invite à vous lever. Ce matin, tu es appelé à faire la différence. Ce matin, mon appel, c'est ça. Fais la différence. Tu es appelé à montrer ton amour pour Dieu, pour les autres et pour l'Église en action. Viens faire la différence. Fais taire les fausses ou les bonnes excuses. Fais taire toutes ces excuses qui sont dans ta tête, même si ça te paraît tellement être légitime. Quelqu'un a dit que l'obéissance, c'est ta responsabilité. Mais le résultat, le comment ça va se faire, c'est celui de Dieu. Ta responsabilité à toi, obéis. Le reste, c'est Dieu qui va gérer. Viens faire la différence avec nous. Pour Dieu. Pour son royaume. Pour les autres. Pour l'Église. Par amour. Et par grâce. Laisse-moi prier pour vous. Seigneur Jésus, on veut te remercier de nous avoir sauvés. Parce que c'est ça le but principal de notre présence ici, c'est que tu nous as sauvés. Tu es venu en tant que serviteur. Toi, le Dieu éternel qui a tout créé, tu es venu nous servir. Alors merci Jésus pour ça. Merci Jésus pour toute la Dream Team qu'on a à Châteauguay. Merci pour chaque bénévole qui sert par amour pour toi, par amour pour les autres et par amour pour l'Église. Merci pour chaque cœur, Jésus. Je te prie de venir renouveler les forces, renouveler la passion, renouveler l'amour, s'il te plaît, Jésus, dans chaque vie de ces bénévoles-là, de ces précieux bénévoles. Je te prie à nous aider à ne plus être des consommateurs, mais être des serviteurs. Je te prie pour toutes les personnes qui ne servent pas encore, Seigneur. Je ne mets aucune condamnation, je ne veux pas qu'il y ait un sentiment de condamnation sur leur vie. Mais je te prie, Seigneur, viens leur réveiller un amour pour toi qui ne les laissera pas insensibles. Un amour pour les autres qui ne les laissera pas insensibles. Un amour pour l'Église qui ne les laissera pas insensibles. Viens éveiller cet amour dans leur vie, s'il te plaît. Agis dans leur cœur. Agis dans nos cœurs. Je m'inclus aussi là-dedans. Aide-moi à te servir plus encore, Jésus. Parce que tu mérites le meilleur de ma vie. Tu mérites le meilleur de ce que j'ai à offrir. Tu mérites le meilleur de mes journées, le meilleur de mon investissement, le meilleur de mon temps. Tu mérites tout le meilleur, Jésus. Puis ultimement, aide-nous à bâtir le royaume pour toi, à Châteauguay. Aide-nous à bâtir le royaume pour toi, Jésus. Et je te prie que ce matin, que plusieurs puissent déclarer avec obéissance, fais ce que tu veux de ma vie. Fais ce que tu veux de ma vie. C'est des mots qu'on peut chanter à la légère ce matin, mais que chaque personne, même moi le premier, qu'on puisse réaliser ces paroles. Fais ce que tu veux de ma vie, parce que je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur, pour l'Église, pour les autres, pour ton royaume. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Jésus, nous voulons apprendre à t'aimer plus. Nous voulons apprendre à t'aimer plus, même si ça implique de te servir plus, de se donner plus. Nous voulons t'aimer plus. aide-nous à aimer en action. Et que ultimement, toute la gloire, la louange, les honneurs te reviennent à toi seul parce que tu es digne. Tu es digne de tout recevoir, Jésus. Tu es digne parce que tu nous as sauvés. Tu es digne parce que tu as tout accompli à la croix. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus. À toi la gloire, Seigneur Jésus. C'est en ton nom que j'ai prié. Merci pour